Vous écoutez Radio Panique.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Panique au 105.4. Vous écoutez Elles en parlent encore, une émission de Vie féminine Bruxelles. Aujourd'hui, ce mois-ci, le thème que nous allons aborder, c'est le thème de la maternité. Un thème bien large, mais nous l'aborderons d'une manière résolument féministe, en dénonçant notamment la pression qui s'exerce sur les femmes à ce sujet et tous les tabous. Et il y en a beaucoup qui pèsent sur la maternité, sur la parentalité en général. Alors, j'ai à mes côtés deux invités. Tout d'abord, Corinne Mayer, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Nos kids, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants », qui est sorti, qui vient de sortir en livre de poche. Et donc dans ce livre, vous dénoncez notamment ces tabous justement qui pèsent sur la maternité et la parentalité, et on en parlera. Et alors j'ai également Hélène de Trot à mes côtés. Bonjour Hélène.
Bonjour Alexandra.
Qui travaille à Vie féminine comme responsable des consultations ONE. Et donc là aussi, ce sera un autre point de vue qu'on pourra partager avec nos auditeurs. Oui. Voilà. Alors, on va tout de suite démarrer avec le premier thème. Si on part du principe que faire un enfant, c'est un choix, comment est-ce que... Donc, on peut dire qu'il reste difficile pour une femme qui veut pas avoir d'enfant d'affirmer son choix. Quelle est votre réflexion par rapport à ça? Et pour vous, quelles sont les raisons de cette difficulté qu'ont ces femmes d'affirmer justement ce choix qui est différent des autres, celui de ne pas avoir d'enfants?
Mais je pense qu'il y a une pression sociale sur les femmes pour qu'elles aient des enfants, parce que c'est la norme, et puis pour d'autres raisons aussi. Et donc ce qui fait qu'il y a un certain nombre de femmes qui hésitent un peu à dire qu'elles n'ont pas envie d'avoir d'enfants, puisqu'il faut, enfin implicitement, on attend d'elles qu'elles se justifient finalement. Si, enfin, une femme qui ne veut pas avoir d'enfants, on attend une raison. Sachant que bon, si c'est une raison effectivement de santé, bon ben ça soulage tout le monde. On se dit oui, la pauvre, tant pis pour elle. Et si quelqu'un qui dit comme ça d'emblée, voilà, je ne veux pas avoir d'enfant parce que c'est un choix et que j'ai décidé de vivre autrement, ça étonne toujours les gens en fait. Et je pense qu'il y a une forte pression sur le fait que les femmes deviennent mères. Ça rassure la société finalement. C'est dans l'ordre des choses. Et puis ça permet aussi de faire en sorte que la société perdure comme elle est finalement, puisque des gens qui ont des enfants en général, ils sont endettés, ils achètent beaucoup de choses, ils sont très préoccupés par l'avenir et ils pensent pas à d'autres choses qui pourraient déstabiliser l'ordre.
Mais ça, vous en parlez dans votre livre, justement, du lien entre la maternité, la parentalité et la consommation et le capitalisme. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Merci. Je pense que, est-ce qu'Hélène, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça?
C'est clair que je pense qu'on a toutes vécu ça. Une fois qu'on est en couple, y a les grands-parents, les parents qui, au bout de 6 mois, commencent à poser des questions et à se demander comment les enfants vont venir. Ils ne se posent même pas la question de savoir si...
Ils ne se posent même pas la question de savoir si il faut avoir des enfants ou quoi, c'est quand ils vont arriver. Et alors, c'est vrai que la publicité, effectivement, cible beaucoup, pour répondre à l'aspect sur le capitalisme, la publicité cible beaucoup les jeunes parents, ça c'est clair, c'est un créneau pour eux.
Et par rapport au désir d'enfant, à quel point est-ce qu'une femme peut se dire ce désir que j'ai d'avoir un enfant, est-ce qu'il vient vraiment de moi, ou est-ce qu'il n'y a pas toute une série justement de pressions qui font qui serait à l'origine de ce choix? Est-ce que...
Moi, le terme désir d'enfant m'amuse beaucoup, parce que je pense que c'est une expression qui est apparue au moment de la contraception. Avant, les gens ne se posaient pas la question de savoir s'ils désiraient depuis leur tréfonds un enfant. Bon, je ne veux pas dire que c'était plus simple, simple, hein, ça l'était sûrement pas. En plus, il y avait beaucoup d'enfants qui n'étaient pas forcément désirés, ce qui est aussi, ce qui est un gros problème. Mais je pense que si on avait posé la question à mes parents de savoir s'ils désiraient un enfant ou des enfants, je pense qu'ils auraient même pas compris la question. Alors qu'on a commencé à partir du moment où effectivement les femmes ont maîtrisé leur fécondité, elles ont commencé à supposer. On a attendu d'elles qu'elles se demandent si elles désiraient un enfant. Alors, tout un tas de trucs autour de ça qui peuvent être assez comiques, parce qu'on entend des gens dire « ah, je ne sais pas, ce fameux désir d'enfant ». Alors on cherche au sein de soi, là, dans les tréfonds, les plis, si par hasard il y aurait ce fameux désir qui est parfois un petit peu imaginaire.
Voilà, donc là moi ce que j'entends de ce que vous dites, c'est vraiment cette la société qui peut renforcer aussi, même à des fins de consommation ou à des fins sociales, comme vous disiez, de maintenir la société comme elle est, qui peut renforcer cette idée chez les femmes qu'elles doivent à tout prix avoir un désir d'enfant, sinon finalement elles sont pas normales, quoi.
Oui, mais je pense aussi dans certains pays aussi je pense que l'État s'en mêle pour des raisons d'identité nationale, en fait, c'est-à-dire pour faire des enfants bien de chez nous, parce que au fond quand on s'interroge pourquoi est-ce que l'État attend de nous qu'on ait des enfants, alors il nous vient cette question des retraites. Alors qui va payer nos retraites, ce qui est déjà assez comique de dire qu'on va avoir des enfants pour qu'ils payent nos retraites. Et puis parce qu'au fond cette histoire des retraites, bon, admettons, partons dans cette logique, on pourrait très bien imaginer qu'on fasse plus appel à l'émigration avec des gens jeunes qui travailleraient, on ferait venir des gens jeunes qui travailleraient, qui cotiseraient pour nos retraites, donc on n'a pas besoin d'avoir des enfants pour qu'ils payent nos pensions, pour imaginer d'autres solutions. Donc on voit bien que le côté un petit peu « faites des enfants bien de chez nous », c'est aussi une manière de garder le pays ou les pays en état, et pour que finalement on reste entre soi un petit peu et qu'on se défende contre d'éventuels « chemins » entre guillemets, bien sûr, envahisseurs d'une autre culture.
Hélène, à ce sujet, tu...
Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'histoire des guerres, parce que c'est ça aussi, les pays qui ne s'entendent pas, enfin je pense principalement à ce qui est bien connu, enfin me semble-t-il, c'était entre le Maroc et l'Algérie, où tout d'un coup le fait d'avoir des enfants et d'être plus nombreux que son voisin devenait un enjeu politique. Ça c'est clair et net. Et sur les pensions, j'ai l'impression que c'est un vieux reste aussi de ce qui s'est passé effectivement de génération en génération, où les enfants, les petits-enfants étaient la garantie que les parents et les grands-parents aient de quoi vivre. Voilà. Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça.
Merci. Et alors, par rapport à cette idée du couple, parce que le couple est quand même sacralisé dans la société, c'est le couple avec enfants, ça reste les repères. Et qu'est-ce que vous pensez des femmes et des hommes, d'ailleurs, qui voudraient avoir un enfant seul? Comment est-ce que la société réagit par rapport à ça?
Bah, je pense qu'il y a, il y a quand même une forme d'acceptation de plus en plus grande, il me semble, enfin en tout cas des gens de formes, disons, de parentalité différentes, c'est-à-dire des gens qui ont seul un enfant ou des couples homosexuels qui décident d'avoir des enfants. La loi ne suit pas toujours, donc le problème il est plus juridique, il me semble. Mais je crois qu'il y a, il y a quand même, disons, un progrès dans ce domaine, dans l'acceptation de formes divergentes de parentalité. Ouais.
D'accord, c'est marrant parce que moi j'ai ressenti quand même une pression en fait par rapport au fait d'affirmer en tant que femme tiens, moi si je suis pas en couple à un certain âge, ben j'aurai un enfant seul. J'ai l'impression que le regard est pas encore enfin peut-être ça dépend du milieu dans lequel on se trouve, je sais pas, mais que le regard parfois n'est pas toujours bienveillant et qu'on se dit ah non ça va pas être possible, ça va être trop difficile ou quoi, et que voilà, que c'est...
Oui, alors c'est possible, effectivement. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de gens qui se séparent, beaucoup de familles recomposées. Donc du coup, ça, je pense qu'à la fin, les différences...
S'atténuent,
puisque finalement, vous avez beau être en couple, il y a aussi beaucoup de couples qui ont un ou deux enfants, et puis très vite, ils se séparent. Et donc, on en arrive à des configurations qui sont pas très différentes de la jeune femme qui est toute seule pour élever son enfant, et puis qui se fait aider éventuellement par sa copine, un copain d'enfance, etc., ou ses parents. Donc à la fin, c'est pas, je suis pas sûre qu'il y ait une grosse différence finalement. C'est peut-être le fait de le dire avant qui puisse étonner. de dire bon bah je vais avoir un enfant toute seule et puis voilà, parce que il suffit de se taire au fond.
Voilà, bah, c'est peut-être ça la clé.
Voilà.
Oui, c'est je pense que c'est un peu ça, c'est que les accidents de la vie, ok, les divorces, les séparations, ça c'est acquis, mais le fait qu'on dise moi je passe pas par toute la phase couple précaire, mais je désire avoir un enfant seul,
c'est ça qui étonne encore. Oui,
et c'est ça qui étonne, c'est de se dire mais on n'est pas obligé de faire semblant, on a envie d'avoir un enfant, pourquoi faire quelque chose de boiteux, pourquoi pas décider seul.
Ce qui prouve que le couple est vraiment central encore, quoi. C'est par rapport aux individus, voilà. D'accord. Alors justement, dans votre livre, Corinne Maier, vous avez dénoncé pas mal de choses. Comment est-ce que ce livre a été reçu, a été perçu par à la fois par les gens et par les médias?
Ben bien et mal, parce que bon, il y a des gens que ça amuse et qui comprennent la dimension de critique sociale du livre, enfin que c'est pas forcément à prendre au premier degré et qu'il faut, c'est une manière de réfléchir à l'enfant et à nous-mêmes, mais il y a des gens qui prennent ça pour eux, en fait, qui pensent que, qui, je sais pas pourquoi, mais qui pensent qu'on se moque d'eux, que c'est pas possible de parler comme ça des enfants qui sont sacralisés, et donc que ça exaspère. Mmh. Mais c'est le, à mon avis, c'est le mérite et les limites du pamphlet, c'est qu'effectivement il y a toujours des gens qui prennent ça pour eux et que ça exaspère de façon très bizarre. Et comme je pense que le pamphlet est un sous-genre méprisé qui est en plus en voie de disparition, on se prend d'autant plus de claques qu'on est un des rares à les faire, parce que je pense qu'il y a plus beaucoup de pamphlets aujourd'hui.
Donc il faut être lisse, il faut pas sortir trop des rangs, c'est en fait le politiquement correct un peu partout, quoi, finalement.
Ben oui, on vit dans l'ère du grand consentement, donc faut être d'accord avec tout, faut être content du monde parce que c'était pire avant et que c'est pas mieux ailleurs, et voilà, et dès qu'on commence à dégainer un peu, ça tout de suite il y a des gens qui vous trouvent vulgaire, qui vous trouvent enfin tous les défauts du monde, est totalement excessif et pas du tout dans l'air du temps, etc. Donc c'est le problème du pamphlet.
D'accord, ben c'est sur ces mots qu'on va faire une première petite pause musicale. On va écouter la chanson « Dors mon fils » et on se retrouve juste après. Rebonjour, vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 dans l'émission de Vie Féminine Bruxelles, elles en parlent encore. Aujourd'hui, nous parlons de la maternité et nous avons un invité, Corinne Maier, auteure de No Kids, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants, et Hélène De Troe qui travaille à Vie Féminine dans les consultations ONE, responsable des consultations ONE. Alors, on a évoqué tout à l'heure la difficulté et les pressions sur les femmes pour avoir un enfant et celles qui ne veulent pas en avoir, et l'idéalisation du couple, notamment. Donc, dans votre livre, Corinne Maier, vous dites que la maternité, c'est un piège pour les femmes. En quoi c'est un piège pour les femmes ?
Alors, bon, il y a une dimension d'exagération dans mon livre. C'est dit, je pense que oui, c'en est un, dans la mesure où, bien souvent, elles ont des enfants à un moment de leur vie où ça les oblige, en fait, à faire un certain nombre de renoncements par rapport à un certain nombre de rêves ou d'ambitions qu'elles auraient pu avoir avant. Parce que quand on a un enfant, en général, faut aller chercher le soir ou s'en occuper le week-end. Et ce qui fait que, bon, c'est souvent les femmes qui font ça, puisqu'elle s'occupe de 80% du travail à la maison, et donc ce qui fait que ça va les empêcher souvent de déménager, de changer d'entreprise, d'avoir un poste plus élevé, de se recycler pour faire un autre métier, etc. Et donc ça les oblige plus ou moins à continuer à occuper des métiers moyens, souvent sous-payés, puisqu'en fait les femmes sont quand même socialement beaucoup moins bien placées que les hommes, moins payés, etc. Enfin, tout le monde le sait, mais je pense que c'est largement à cause des enfants, en fait. Parce que du coup, ça les fixe dans des métiers moyens ou dans des mi-temps ou dans des situations qui sont pas intéressantes. Donc finalement, ça oui, c'est un piège, ouais.
Hélène ?
Oui, j'étais en train de dire oui, parce que je pense que c'est même pire que ça à Bruxelles, puisqu'il y a quand même des quartiers où il y a très très peu de places d'accueil en crèche, et donc et très peu de choses tout court prévues pour les enfants, et donc c'est vraiment, je pense, encore pire que ça. Ça oblige les femmes à rester à la maison dans certains quartiers, c'est vraiment ça. Donc là, je fais référence un petit peu à un travail qu'on fait au sein de l'Université populaire des parents à Anderlecht, où les femmes se sont réunies pour travailler un thème de recherche, et justement c'était sur le manque de place pour les enfants dans la société, et elle disait des choses très très fortes par rapport à ça. D'abord le fait qu'il n'y ait pas de crèche, pas de possibilité de place en crèche pour beaucoup, et elle disait que c'était souvent lié aussi à leur propre précarité au départ. Elles ont, quand elles ont été enceintes, elles ont perdu leur boulot parce qu'elles étaient dans des contrats précaires, et puis quand elles ont été dans les crèches en disant ben voilà, moi je veux reprendre du boulot, je fais de l'intérim, elles étaient pas prioritaires, donc elles ont pas eu de place en crèche. Et réellement le fait qu'il y ait pas de place en crèche pour ces femmes-là les oblige à rester à la maison, et en plus de ça on sait que le marché du travail c'est pas quelque chose de facile, donc pour rentrer sur le marché du travail ça va pas être triste, enfin non, sont pas encore là, mais moi je dis que ça va pas être triste, parce que quand on est sous-qualifié et qu'on est resté 3 ans à la maison parce que on avait un enfant, c'est pas évident. Et les boulots précaires aussi, ça veut aussi souvent dire travail décalé, et travail décalé ça correspond pas non plus aux heures de garderie des écoles, donc c'est vraiment il n'y a pas l'infrastructure dans la société pour permettre aux femmes d'avoir des enfants et de continuer à travailler normalement. Et donc, c'est vraiment effectivement quelque chose qui freine l'entrée sur le marché du travail. Et d'autant plus quand on est prioritaire.
Oui.
Précaire.
Merci Hélène. On voit dans tout ce que vous dites en fait que les fondements de la société sont encore vraiment patriarcaux, puisque justement il n'y a pas assez de choses qui sont faites. C'est pas considéré comme prioritaire finalement. Une politique de l'enfance avec assez d'infrastructures. Moi, quand je vous entends et quand je vois la réalité, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment prioritaire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous? Bon, on l'a dit, il faudrait plus de crèches, mais qu'est-ce qu'il faudrait d'autre pour que on arrive à un partage plus égalitaire? Qu'est-ce qui manque pour que y ait ce partage plus égalitaire entre hommes et femmes? Donc, à propos de la maternité.
Mais ça pose plein de questions, et d'ailleurs les anglo-saxons utilisent ce mot de care, enfin qui est s'occuper d'eux, et le care c'est ce qui fait fonctionner la société en fait, et donc c'est du travail gratuit en fait souvent, puisque ça consiste à s'occuper des autres, ça consiste à s'occuper de ses enfants, à s'occuper de ses grands-parents, et donc c'est tout ce travail, puisque c'en est un qui est invisible, qui est pas payé, et qui est finalement la base de la société, seulement voilà, il n'est pas rémunéré, et il n'est même pas pris en considération dans la réflexion souvent qu'on peut avoir sur la société. En fait, l'économie s'en fiche totalement. Et il faut dire aussi que comme il y a de moins en moins de travail dans nos sociétés, elle n'a pas à s'en préoccuper, puisque finalement les gens font des trucs dans les coins, ça marche, on s'en fiche quoi. Et au fond, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution, puisque je pense que la seule solution, ça serait paradoxalement qu'il y ait davantage de travail et donc davantage de besoins pour des gens. Puisque là, il y a suffisamment de gens pour produire, il y en a même trop. Donc pourquoi se préoccuper de ceux qui n'ont pas de boulot? Ils s'en fichent, ils ont qu'à rester chez eux puis s'occuper des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut pas s'arranger. Puisqu'il y a un gâteau en termes de travail. De toute façon, il y a déjà plein de gens qui n'en ont pas. Et donc, on n'a pas besoin de ceux qui n'en ont pas. Ils ont qu'à faire des trucs gratuits. Vous voyez je défends pas ça. Hein.
Oui, ça c'est la mentalité, ça c'est ce qui se passe.
Oui, oui, mais voilà, c'est pour ça que ça risque de ne pas changer avant longtemps. C'est que précisément c'est la mentalité ambiante, et je crains.
Est-ce que justement ça n'a pas à voir avec les rôles traditionnels, les stéréotypes des hommes et des femmes? Voilà, les femmes plus à s'occuper des autres, donc naturellement, donc pourquoi est-ce qu'elles seraient payées effectivement, et les hommes plus tournés vers l'extérieur, vers la compétition, la carrière professionnelle?
Oui, c'est des places toutes faites, c'est des rôles, c'est des choses très vieilles qui perdurent, je pense. Oui, en effet, oui.
En tout cas, je pense que c'est pour ça que ça n'explose pas, c'est parce que objectivement se dire que dans certains quartiers il y a exactement 15% des enfants qui auraient droit à avoir une place en crèche, je veux dire, c'est complètement scandaleux. Si ça n'était pas dans l'idée de la société qu'effectivement c'est le rôle des femmes principalement de s'occuper des enfants, il y aurait une révolution. Enfin, je veux dire, et quand on regarde les segments des personnes âgées, c'est la même chose. Il y a trop peu de place. Il y a rien qui est prévu ni pour maintenir les personnes chez elles, ni pour les accueillir confortablement. C'est beaucoup trop peu pris en charge. Pourquoi est-ce que ça n'explose pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une révolution? Ben, parce que ça correspond à une vision traditionnelle de la société. Maintenant, ça se paye en termes de santé mentale, ça se paye en termes de, même de développement économique et des choses comme ça, mais...
Finalement, peut-être la seule solution passerait par l'éducation. Reprendre tout à la base et changer chez les petites filles et les petits garçons les stéréotypes de justement ces hommes qui vont faire carrière et les femmes plus tournées vers les autres.
Il y a ça. Et puis il y a aussi, je pense, mais ça serait la, ce serait peut-être une révolution trop grande, mais il y a des choses à changer dans la société. Enfin, quand tu parlais de la répartition entre les pères et les mères de famille, mais moi je pense vraiment qu'il faut un congé paternité à dimension égale qu'au congé de maternité. Point barre, ça se discute pas même, je dirais. C'est, enfin, si on partage dès le départ, on partagera plus tard. Et je pense aussi que bon, c'est tout à fait révolu, mais on a quand on n'était pas encore en super grosse crise économique, on pensait diminuer le temps de travail pour tout le monde et repartager le boulot le travail. Maintenant, ça se fait mais de manière informelle. Tu as un emploi précaire un an, puis tu n'en as plus, puis tu en as, puis tu n'en as plus. Enfin voilà, il y a pas une vision un peu volontariste par rapport à ça.
Et est-ce que ces mesures seraient applicables dans tous les milieux, y compris les milieux précaires? Est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là?
Je ne sais pas. Je pense que dans le milieu précaire, tu sais, finalement, les mamans que je fréquente à l'Université populaire des parents, de fait, elles travaillent pas. Mais elles sont en réelle demande de travailler, c'est pas un choix. Donc je pense que si on pouvait réorganiser, par contre leurs maris ont une énorme, enfin ce qu'elles racontent c'est que le mari a par contre une énorme pression pour amener l'argent.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Et que donc peut-être s'il y avait quelque chose où vous disait ben vous aurez peut-être un tout petit peu plus d'argent, pas beaucoup plus, mais par contre vous auriez une vie plus équilibrée entre vous, je suis pas sûre que ça ne marcherait pas.
En tout cas, il faudrait essayer. Or, à l'heure actuelle, au niveau du congé de paternité, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est fait dans ce sens-là, y compris au niveau européen, je pense. Hein.
Au niveau européen, ils voulaient augmenter le congé de maternité, mais sans toucher au congé de paternité. Donc, pour moi, ça, c'est absurde.
On reste dans cette logique, justement. Ok, on va, je pense, à nouveau faire une petite pause et on va écouter Elisa Tovati avec 9 mois. À tout de suite. Bonjour, donc voilà, vous êtes sur Radio Panique 105.4, toujours dans l'émission Elles en parlent encore. Nous abordons le thème de la maternité avec Corinne Maillard et Hélène Detrault. Alors, je regarde les raisons que vous mentionnez dans votre livre, ces 40 raisons pour ne pas avoir d'enfant. Alors par exemple, l'enfant sonne le glas du couple, qu'est-ce que ça veut dire ?
On sait qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent après avoir eu un enfant ou deux enfants en bas âge, parce que évidemment ils sont tellement occupés avec leurs petits enfants qui représentent effectivement quand ils sont tout petits une charge épouvantable parce qu'il faut s'en occuper tout le temps, que finalement ils oublient qu'ils sont un couple et forcément ça peut les séparer. Mais enfin bon, on a tous vécu autour de soi ou vécu soi-même des couples très très équilibrés a priori qui avaient des enfants et puis d'un coup le couple explose en vol simplement parce qu'ils sont submergés par leur travail de parents et que ça induit un déséquilibre dans leur couple. Donc les enfants, enfin quand ils apparaissent, ça peut séparer les gens. Oui,
donc là c'est un peu briser le mythe de la famille idéale avec le couple et puis l'enfant qui vient compléter ce bonheur là et
voilà, et ils sont de plus en plus heureux, voilà. Et puis ça ne change rien sauf que l'enfant rajoute au bonheur alors qu'en fait l'enfant déséquilibre horriblement un couple. Et peut-être au deuxième ou au troisième, on peut considérer que l'enfant ne déséquilibre plus puisqu'il s'intègre à une unité existante. Mais le premier, en tout cas d'après mon expérience, c'est quand même une sorte de tremblement de terre. On ne s'attend pas du tout.
Et alors oui, vous parlez aussi des sentiments ambigus, notamment des mères par rapport à leur enfant. Là aussi, c'est un sujet.
Ben oui, parce que d'une certaine manière, enfin en tout cas, je peux parler de moi. C'est vrai que quand ma fille est née, donc c'est l'aînée, j'en ai deux. je m'attendais pas du tout à cette merveilleuse petite chose qui allait déséquilibrer tout mon emploi du temps, m'obliger à rentrer le soir à des heures très précises, me lever le matin très tôt. Et c'est vrai que c'est un changement énorme de vie. Et donc forcément, on n'est pas forcément prêt en fait. Et du coup, en plus, toute personne qui devient parent, on s'interroge. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, mais je l'ai vu. Je pense que c'est assez général sur l'enfant qu'on a été, l'enfant de ses parents. Sur soi, sur ses parents. Donc il y a toute une phase d'interrogation qui rajoute encore au malaise qu'on peut ressentir d'être devenu parent comme ça d'un coup, puisque par définition c'est d'un coup. Donc ça donne quand même des gens qui peuvent être assez désorientés par, en tout cas par la naissance du premier, parfois par le deuxième, mais je pense que le premier c'est quand même assez lourd.
Oui. Et justement. Ça doit être, c'est peut-être d'autant plus difficile pour les femmes qu'il y a cette pression, et même cette pression qu'elles se mettent de la mère parfaite finalement.
La mère parfaite, l'enfant parfait, tout va se passer comme dans les cartes postales, l'enfant va arriver, il va naître sans problème, il sera en bonne santé, on va être très heureux tout de suite. On va être épanoui immédiatement, on va rentrer chez soi avec l'enfant et puis il suffira de le coucher et puis tout sera comme avant. Évidemment, tout se passe pas exactement comme ça. Donc c'est vrai que plus la société en rajoute sur le côté carte postale et plus les gens sont perdus, je pense, puisqu'ils s'attendent pas du tout aux difficultés qu'ils vont traverser les premiers mois, puisque c'est quand même un changement de vie, puis après il faut le faire garder, ce qui peut entraîner des difficultés énormes financières, autres modes de garde, enfin, et la société en effet n'est pas forcément très aimable non plus puisqu'on nous dit il suffit de les faire garder, mais par qui, comment? Et que les places en crèche sont très rares, finalement.
Hélène, dans les consultations, tu remarques un peu ça, toute cette difficulté?
Oui, bien sûr. Évidemment, c'est pas toujours dit très clairement, mais c'est vrai, par exemple, je me pense à une maman qui est arrivée et elle était pendant un mois, moi je la voyais au bord des larmes, et heureusement il y avait effectivement des bénévoles qui étaient très attentives et qui lui permettaient de s'exprimer, mais elle sortait vraiment d'une vie où elle sortait, où elle dormait, et puis elle a ce bébé qui arrive, et puis tout d'un coup c'est devenu difficile de voir les amis, et puis tout d'un coup c'est devenu cet enfant, il était bien vivant, il pleurait de temps en temps et des choses comme ça, et elle s'y attendait pas, elle croyait que ça allait être quelque chose qui allait rien changer à sa vie, qu'elle pourrait sortir comme avant, dormir et tout, et elle était vraiment épuisée, crevée. Quoi.
Alors justement peut-être pour aider les mères, il y a toute une série de professionnels de l'enfance, mais pour vous, Corinne Mayer, c'est pas nécessairement la panacée des professionnels de l'enfance.
Oui, enfin faut relativiser, c'est pas exactement ça. Disons qu'il y a des gens, je pense qu'il est d'abord il est utile de consulter quand on se sent pas bien à la suite d'une naissance, parce que ça, il y a parfois des gens qui sont dans un état de choc, et je pense qu'il faut absolument qu'ils voient quelqu'un, parce que ça peut entraîner des répercussions vraiment graves pour eux-mêmes ou pour l'enfant. Donc c'est pas du tout pour dire surtout ne voyez personne et débrouillez-vous. Non, je pense qu'il faut consulter si on sent que on est au bord du gouffre. Maintenant, ce dont je me moque dans le livre, c'est des gens qui prétendent savoir à votre place comment élever votre enfant. Voilà, c'est plutôt ça. Donc c'est faut faire comme ci, faut faire comme ça. Moi, je sais pour vous. Et je me moque aussi des modes d'emploi. Oui, c'est ça, des modes d'emploi et des espèces de tendances. Par exemple, faut coucher comme ça. Alors, il y a un moment, on disait qu'il fallait les coucher sur le ventre. Après, ça a été couché sur le dos. Ça a été. Moi, j'ai eu droit à une des modes les plus ridicules. Alors, ça m'amuse encore quand j'y pense. C'est que quand mon fils est né aussi, mais là, j'avais déjà renoncé. Quand ma fille est née, donc il y a 16 ans, la mode, c'était de diversifier l'alimentation. Et donc, on l'a nourrissé au biberon les premiers mois. Et puis très rapidement, au bout de 3 mois peut-être, le pédiatre nous a dit « Ah, il faut diversifier l'alimentation ». Alors diversifier l'alimentation, ça consistait à essayer de faire gober à un nourrisson de 3 mois des épinards, des œufs, des trucs qu'il ne mange pour aucun... Enfin, il refuse totalement de manger. Donc en fait, chaque repas était un casse-tête. Parce que si on devait suivre le médecin, en fait, il aurait fallu lui faire manger des champignons, du tiramisu, enfin n'importe quoi.
C'est fou, ça veut dire que finalement, ces médecins-là sont déconnectés de la réalité, alors que
c'était un pédiatre, pourtant, qui avait pignon sur rue. Simplement, il avait c'était la mode à l'époque, il fallait diversifier l'alimentation dès 3 mois. Et alors, le problème, c'est qu'en fait, ça donne des parents, bon, déjà, qui sont fatigués, qui sont un peu désorientés et tout, qui sont, enfin, à chaque repas, confrontés au fait qu'on leur dit de faire un truc qu'ils n'arrivent pas à faire, et donc ils se sentent coupables puisqu'ils n'arrivent pas à nourrir correctement leur enfant. Donc, c'est un truc de fou. Et alors, bon, on a abandonné assez vite parce qu'on s'est aperçu que vraiment c'était pas la peine. Mais je pense qu'il y a des parents, c'était des crises de nerfs à chaque repas, forcément. Bon, quelques années après, les années ont passé, puis alors après ils se sont aperçus que la diversification alimentaire, ça entraînait des allergies. Donc maintenant c'est plié, c'est terminé, pas avant un an. Mais voyez, donc on est captif comme ça, discours où on vous dit, oh, bah pour le bien de l'enfant, il va falloir le faire manger des omelettes, je sais pas quoi.
Comme s'il y avait une seule façon, une seule bonne façon finalement d'élever son enfant et que tout le monde devrait suivre pour être des bons parents. C'est ça.
Voilà, alors déjà, c'est vrai que la société nous culpabilise beaucoup. Culpabilise beaucoup les parents. Alors d'abord, effectivement, ça peut être les pédiatres ou les accompagnants médicaux divers qui vous font comprendre que vous ne faites pas bien. Alors que le parent, par définition, est quelqu'un qui est horriblement coupable, puisqu'il ne fait jamais assez pour son enfant. Alors donc, il suffit qu'on lui dise « Ah ben non, vous ne faites pas bien ». Puis alors là, les parents sont dans un état pas possible. Et par la suite, d'ailleurs, c'est plus tellement les accompagnants médicaux ou les médecins. Après, ça devient les enseignants qui vous culpabilisent horriblement. Donc c'est encore un autre, c'est encore un autre chapitre.
Pour en venir à ce chapitre, je lis « L'école incondisciplinaire avec lequel il faut pactiser ». Donc là aussi...
et oui, alors là, je souris parce que ça aussi, ça fait référence, mais alors pas à mon UPP à moi, mais à ce que les Français disent, c'est que à la fois, on demande aux parents des choses terribles à l'école, mais en plus en leur disant, mais de toute façon, vous n'y arriverez pas. Et donc, en gros, on démissionne complètement les parents. C'est pas les parents qui démissionnent, on les démissionne, on les fait démissionner, on les met dans des situations où ils peuvent absolument jamais répondre à ce qu'on leur demande à l'école. Et puis évidemment, ils sont de mauvais parents. Et on met toute une structure parfois autour des enfants et des familles qui ont juste comme but finalement de démissionner les parents, de les enlever comme acteur principal et comme personne qui sait finalement le mieux ce qui est bon pour eux et leur famille.
Mais on sait que les relations entre parents et enseignants sont parfois effectivement pas très faciles. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer justement pour par rapport à l'école pour peut-être dans certaines écoles à difficulté, faire en sorte que ça se passe mieux entre professeurs et élèves. Réinclure les parents dans ce...
Oui, mais les réinclure, pas pour leur faire faire le couscous ou pour leur dire ce qu'il faut faire, c'est, je pense... Enfin, ça, vraiment, non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment avoir des espaces vraiment de dialogue et de participation. Vraiment, mais c'est difficile parce que ça veut dire abandonner son pouvoir. Parce que quand même, dans les écoles, on est dans des lieux de pouvoir où le professeur a le pouvoir et dire à un professeur, vous pourriez peut-être partager votre pouvoir avec le parent et vous y gagneriez. Mm-hmm. Pas facile, quoi.
Pas facile, et sans compter que l'école renforce les stéréotypes. Donc là aussi, je reviens à ce dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'est par rapport à la formation des enseignants, d'avoir une formation qui permette de changer le modèle de société, finalement.
Mais oui. Enfin, moi, je pense qu'ils sont très, très peu équipés. Hein. On leur apprend à comment transmettre un savoir, plus ou moins. Mais alors, enfin, je souris parce que moi-même, personnellement, j'ai vu ça avec certains instituteurs. Ils sortent de l'école, ils ont devant eux des parents qui ont l'âge peut-être d'être leurs parents, et on leur a pas dit comment, on leur a jamais parlé de ce moment-là où ils allaient se retrouver devant des parents qui allaient discuter avec eux. Alors forcément, c'est difficile que ça se passe bien. Mm-hmm. Parce que voilà, ça a pas du tout été préparé, quoi. Et alors bon, les changements de société, oui, non, encore moins, quoi. Encore moins. On leur a dit de passer des valeurs et un savoir. Hein. Mmh.
Voilà, ce sont les valeurs de la société. Donc effectivement, on en revient à ce que vous disiez tantôt, c'est-à-dire que c'est pas prêt de changer finalement.
Oui, non. On ne se donne pas les moyens de changer, ça c'est clair.
D'accord. Alors par exemple, je lis encore la raison 27. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vouloir le bonheur de votre rejeton. Ça veut dire quoi? Que son bonheur à soi, on l'oublie complètement finalement.
Oui, disons qu'à partir du moment où on a des enfants, on essaie de faire en sorte que, enfin, d'assurer donc leur bien-être, mais ça finit par s'étendre à tout finalement. Donc on finit par en faire des tonnes, donc à tout. Donc au début c'est le bien-être matériel, et puis ensuite c'est tout, c'est qu'ils se divertissent, qu'ils s'ouvrent culturellement à plein de choses, qu'ils soient épanouis. Et donc finalement on essaie de lui donner ce qu'on n'a pas forcément eu ou ce qu'on a le sentiment d'avoir raté. Et ça devient une sorte d'investissement à plein temps ou une sorte de sacerdoce où on donnerait tout finalement pour essayer de contrebalancer toutes les difficultés auxquelles soi-même on a été confronté, voyez. Et donc évidemment on est forcément dans le n'importe quoi puisque je pense que trop c'est trop. Et alors c'est très compliqué de trouver la juste mesure entre pas assez et trop. Ce qui fait qu'on est tous des mauvais parents, puisqu'on est tous soit du côté du pas assez dans certains domaines, et du trop dans d'autres. Et donc ça oscille entre les deux, probablement. Ce qui fait que ça donne forcément une sorte de message un petit peu complexe, enfin qu'on a d'ailleurs reçu nous-mêmes, puisqu'on a eu des parents, mais c'était la même chose. Il y avait trop dans certains domaines, puis pas assez dans d'autres. Et donc on refait, nous, trop ou pas assez, mais pas dans les mêmes. Alors le curseur hésite d'un côté à l'autre. Mais évidemment, comme on essaie de refaire, le package est différent en fait, voilà. Mm-hmm. Donc, quand on a reçu trop dans un domaine, on va donner moins, et alors ça sera pas assez. Enfin, vous voyez. Donc, finalement, à la fin, comme le disait Freud, éduquer une mission impossible. Mm-hmm. C'est évidemment totalement impossible. On échoue forcément.
Mm-hmm. C'est un peu cette acceptation là. Il faudra accepter ça finalement.
D'échouer.
Oui.
Oui, mais enfin, même quand on l'accepte, ça, parce que je pense que j'ai accepté, même si c'est dur d'accepter, c'est vrai. Moi, je trouve que mes enfants sont totalement incultes, et ça, c'est une grande douleur pour moi, parce que, mon compagnon et moi, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est culture, à tout ce qui est littérature, musique, enfin, je vous passe art et tout, et on les trouve vraiment totalement incultes, en fait. Et c'est vrai que ça, d'accepter ça, je pense que ça sera probablement un des gros chantiers des années qui viennent, parce que je ne comprends pas comment, vu la manière dont on vit, ils s'intéressent aussi peu à ce qui est culturel. Mais effectivement, il faut quand même l'accepter à un moment.
C'est peut-être un lâcher prise.
Oui, mais je sais, j'y réfléchis, je travaille sur moi-même, mais bon, c'est pas pour ça qu'on est très contents.
Ça, on est d'accord.
Mais il faut lâcher prise, ouais, il faut accepter qu'ils soient eux et pas nous.
Et puis c'est l'espèce de balancier, c'est vrai que, enfin, avec ma grande, elle me dit, mais tu m'as trop poussée à faire des choses quand j'étais petite. Maintenant, j'ai plus du tout envie.
Oui, ça c'est, ils sont comme ça, ça c'est sournois quand même.
Ouais.
C'est ta faute si je fais rien, quoi.
Oui, bon, toi. mais bon, moi, ce que j'ai quand même remarqué, enfin, un peu pour, enfin, moi, je pense que c'est très bien de ne pas être des parents parfaits, en fait. Mm. Parce que quand on est parfait, on laisse pas du tout de place aux enfants pour grandir. Donc, voilà, moi, c'est comme ça, moi, je m'en sors. Je me dis, ok, je suis pas du tout parfaite, mais je vous laisse la place pour grandir. Enfin, ça vous donne la possibilité vous-même de vous construire. Mm. Bon, on verra.
Tout à fait. Est-ce que ce surinvestissement, on constate quand même que c'est plus le fait des femmes, finalement?
Et je voulais dire aussi, parce que ça, je l'ai beaucoup vu, c'est que ce surinvestissement, cette façon de vouloir faire tout pour son enfant, ça pousse parfois les femmes à être dans des situations où vraiment elles sont sous l'emprise des enfants d'une façon terrible. Elles ont des enfants qui sont des mini dictateurs, et l'histoire des pleurs, c'est la mode de dire qu'il faut mettre des limites et des choses comme ça. Moi, je sais pas tellement ça, mais c'est que parfois quand les enfants ont compris que s'ils pleuraient, c'était le message total pour d'arrêt pour la maman. Et donc il y a des femmes qui sont épuisées parce qu'elles ne veulent pas déposer leur enfant parce que l'enfant va pleurer, par exemple, et donc elles gardent la charge toute seule de l'enfant, parce que si elle décide finalement de faire quelque chose pour elle, c'est de dire, bon voilà, je te dépose, tant pis, tu vas pleurer, tu vas peut-être même pleurer 2 heures, mais tu n'en mourras pas, moi je vais souffler, c'est insupportable. Il y a quelque chose qui a un peu bougé dans la société par rapport aux pleurs des enfants, c'est qu'un enfant ne doit pas pleurer, on ne peut pas faire de mal à un enfant, et donc du coup parfois les mères, et je pense que c'est surtout les mères, parce que là je pense que les papas parfois ont un rôle à jouer, à dire, eh ben, tant pis, ils pleurent, mais bon, souvent les mères sont seules à la maison, et c'est elles qui ont cette charge-là de cet enfant ne peut pas pleurer, parce que ça veut dire que je le maltraite, et donc elles sont coincées dans des trucs de fou, où elles n'osent pas faire des choses qui seraient pourtant bonnes pour elles, et donc
par ricochet pour l'enfant aussi, parce qu'il va pleurer, quoi. Et les enfants comprennent ça. C'est...
Et moi, quand je t'entends, ça pose aussi la question de cette relation fusionnelle entre mère et enfant, dont on dit, enfin, j'ai l'impression que le discours ambiant, c'est plutôt que c'est naturel, c'est quelque chose de naturel. Alors, j'ai l'impression, quand je t'entends, qu'il y a aussi quand même une pression de la société. Est-ce que c'est si naturel que ça, cette relation fusionnelle ? Là, on va peut-être demander à la psychanalyste.
Non, moi, je crois pas du tout que ça soit naturel. Enfin, parce que c'est quand même des liens culturels, de paroles, d'insertion dans un arbre généalogique. Enfin, le sien, celui de l'enfant, etc. Donc, je pense pas du tout que ça soit naturel. En plus, c'est un truc qui se construit. Enfin, quand le bébé arrive... Bon, il peut être déjà investi de plein de choses, mais ça peut être aussi quelque chose qui est construit totalement et qui se forge avec le temps. Donc, je pense pas du tout le côté naturel chez l'être humain. Déjà, je demande à voir, donc je suis un petit peu sceptique. Mais alors, dans le lien mère-enfant, non, je crois beaucoup à la construction en fait de quelque chose.
Donc, on pourrait déculpabiliser les femmes qui, justement, ont assez rapidement envie de prendre du temps pour elles et celles qui n'y arrivent pas parce qu'elles se sentent coupables de faire du mal à l'enfant si elles le font.
Oui, je pense que chacun vit la maternité comme il a envie. Enfin, moi, personnellement, comme je suis une mauvaise mère assez assumée, c'est ce que je dis toujours autour de moi. Là, j'ai l'exemple d'un couple d'amis qui ne veut pas faire garder son enfant de 8 mois parce qu'il est trop petit. Mais je dis, à partir de 3 mois, on peut faire garder un enfant. Simplement, il faut s'organiser pour trouver une crèche. Ça, c'est la difficulté. Mais si on s'y prend bien à l'avance et qu'on peut quand même trouver quelqu'un qui s'en occupe quelques heures par jour avec d'autres enfants éventuellement. Et c'est des gens qui refusent parce qu'ils considèrent que l'enfant sera malheureux tout seul. Alors que moi, je suis convaincue que le fait de les faire garder, c'est très bien. D'abord, c'est bon pour les parents, ça leur permet de faire autre chose. Puis parfois, ils sont très contents aussi parce qu'ils voient autre chose, ils voient un autre univers. Un enfant qui est enfermé chez soi tout le temps avec sa maman, parce que c'est souvent la maman, il faut dire, je suis pas sûre que ça l'amuse énormément. Et je pense qu'au contraire, il faut... Enfin, chacun fait comme il sent, bien entendu, mais moi, je pense que se dire que faire garder un enfant, c'est bon pour soi et bon pour lui, même très jeune, je pense pas que ça soit forcément une mauvaise idée.
Ben, j'espère qu'il y a beaucoup de mères qui nous écoutent et qui pourront se déculpabiliser. Et on va faire une dernière petite pause avec Linda Lemay. On se retrouve après. Partie d'Elles en parlent encore, une émission consacrée à la maternité. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été abordées, donc avec Corinne Mayer et Hélène de Troyes. C'est marrant parce que je disais votre raison numéro 19, vous serez forcément déçu par votre enfant. Et ça faisait quoi ce dont vous aviez parlé avant la pause? Donc on voit que voilà, on est dans cette idée d'avoir l'enfant parfait et fait entre guillemets à notre image, et c'est pas la réalité.
Ben non, ils sont toujours différents de ce qu'on attend, c'est normal. Je pense que moi aussi j'étais différente de ce que mes parents attendaient, et mes enfants sont différents de ce que j'attendais. Donc je pense que oui, il faut accepter ça. C'est quand même assez difficile puisqu'il y a des choses qui nous semblent aller de soi, et puis finalement ben non, ils sont autrement, ils veulent faire autre chose, ils ont d'autres opinions, et puis bon voilà, faut accepter, même si parfois c'est très difficile en fait. Hein. Il y a des choses qui en fait auxquelles on réfléchit même pas, mais qui nous semblent comme ça doit être comme ça. Et c'est d'autant plus fort qu'on les verbalise même pas. Et effectivement, les enfants viennent remettre en question ces choses.
D'accord. Alors, au départ, il y a le désir d'enfant, et puis il y a l'accouchement. Alors ça, c'est la raison numéro 2. L'accouchement est une torture. Là aussi, il y a beaucoup de tabous par rapport à l'accouchement.
Ben oui, bon, c'est vrai que la médecine, heureusement, est là pour nous aider maintenant. Donc, il y a quand même pas des chiffres horribles de mortalité qu'il y a pu y avoir jadis, ou qu'il y a encore d'ailleurs dans certains pays. Maintenant, c'est quand même pas le moment le plus agréable de la vie, enfin, du moins pour beaucoup de femmes, peut-être pas pour d'autres. Et c'est quand même une sorte de moment un petit peu délicat, voire douloureux. Et donc, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas forcément une partie de plaisir que d'accoucher. Alors que, effectivement, il y a certaines femmes, et je pense qu'il y a c'est aussi des femmes qui contribuent au mythe. Ah, c'était le plus beau moment de ma vie. Alors qu'en fait, quand on leur demande concrètement comment ça s'est passé, c'est parce qu'elles ont oublié. Et donc du coup, elles collent un discours tout fait histoire de rassurer le monde, je pense, et puis qu'on les laisse tranquilles.
Faut pas faire peur aux suivantes pour maintenir.
Il y a ça. Puis il y a aussi peut-être le fait de vouloir être tranquille et pas s'embêter à rendre des comptes sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Je pense qu'il y a c'est aussi un paravent pour dire bon voilà, c'était merveilleux. Point. Voilà. Maintenant, on parle d'autre chose.
D'accord, Hélène, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ?
Par rapport à l'accouchement ?
Oui.
Que qu'effectivement, je me rappelle d'avoir partagé ma chambre à l'hôpital avec une jeune fille qui était complètement désemparée parce que elle s'était préparée par l'autonomie et donc elle s'attendait à ne pas avoir mal. Et puis elle était là, mais ça fait mal. Et comme elle s'était pas attendue à ce que ça fasse mal, elle était vraiment perdue parce qu'on lui avait dit qu'elle parlait d'autonomie, elle n'aurait pas mal ou pas si mal, qu'elle n'aurait pas besoin de péridurale et que c'était pas bon la péridurale. Et puis au moment de l'accouchement, de se rendre compte que ça faisait mal et que ça faisait mal, bon ben pour certaines longtemps, c'était pas gai quoi, ça l'a à mon avis, oui, elle, c'était vraiment le premier moment qu'il a effrayé dans sa vie de maman, voilà. Maintenant, je l'ai plus revue. Hein. Je l'ai vue juste la pauvre. Elle voulait en plus pas partager sa chambre, donc je l'ai vraiment pas revue. Mm. Mais
c'était probablement pas le dernier moment où elle allait être effrayée.
Non, et puis c'est vrai qu'il y a une espèce de truc en se dire, enfin parce qu'on se met parfois des trucs mais vraiment de fou. Et je ne prendrai pas la péridurale, et puis je vais faire l'autonomie ou je vais accoucher machin chose. Et on investit beaucoup ce moment-là pour quelque chose qui finalement, effectivement, parfois vaut mieux oublier. Ouais.
Alors, la raison numéro 12, c'est l'enfant est une sorte de nain vicieux d'une cruauté innée.
Ben oui, l'enfant tout petit est parfois très cruel. Quand on le laisse tout seul avec des enfants de son âge, ça c'est pas très dangereux. Donc du coup, il faut les surveiller tout le temps, surtout quand ils sont avec d'autres, parce que spontanément, ils se balancent des jouets à la figure, ils peuvent se blesser. Donc, l'enfant peut être très cruel. Et même dans ce qu'il dit, même quand il commence à parler, quand il commence à dire des choses, ça peut être vraiment absolument cinglant. Je me souviens maintenant ça nous fait rire, mais je me souviens de mes enfants petits. Un jour qu'on était dans notre immeuble, on a croisé une dame qui était notre voisine, qu'on voyait régulièrement, qui était très âgée en fait. Et mon fils lui a dit « Madame, tu vas bientôt mourir ». Ce qui est horrible en fait. Alors j'ai essayé de... Oh, j'étais désolée, c'était vraiment un moment affreux parce qu'en fait c'était vrai, elle avait vraiment l'air... C'est ce genre de choses horribles que peuvent sortir les enfants qui... Bon, heureusement la dame était très intelligente et a bien réagi, mais on est désarmés, mais c'est violent quand même.
Tout à fait.
Et c'est vrai que... Enfin, que dans le quotidien des choses... que les enfants, ils ont des réactions qui perturbent les mamans. Donc, comme on investit beaucoup cet enfant, un enfant qui tape ou qui mord, c'est un passage. Moi, j'ai fini par me rendre compte qu'à peu près tous les enfants avaient un moment où ils tapent et ils mordent. Et c'est un moment où les mamans sont perdues parce que cet enfant qui est censé être une si belle image de lui-même mais aussi des mamans, puisque quand on est calé à la maison et que finalement c'est devenu notre raison vive, ben c'est un peu l'image des mères. Quand ces enfants ne sont pas parfaits, on a la phase où ils mordent, mais pourtant on leur a appris, je leur ai toujours dit qu'il fallait partager et tout, et ben c'est pas facile. Bon, je vois que
oui,
Joseph nous fait de grands signes.
L'émission se termine, donc en fait c'est passé vite. Hein. Il y avait encore des tas de choses dont on n'a pas parlé. Je vais vous remercier en tout cas toutes les deux d'avoir répondu à cette invitation. J'espère qu'on a éclairé quand même certaines choses. Je pense qu'on a dévoilé déjà certains tabous.
J'aimerais bien mentionner le nom de mon nouvel ouvrage,
oui,
parce
tout
que
à fait.
Nos Kids est un petit peu ancien. Donc mon nouvel ouvrage sorti il y a 2 mois s'appelle Ciao la France, 40 raisons de quitter votre pays. C'est chez Flammarion et c'est un livre qui est la suite en fait de Nos Kids, puisque ça s'inscrit dans une trilogie Travail, Famille, Patrie. Donc là c'est un pamphlet anti-patrie, puisque c'est un pamphlet anti-France.
D'accord. Ben voilà, mais le lien est fait.
Oui, on peut le mettre sur notre page Facebook.
Effectivement, et on pourrait faire une émission, pourquoi pas. Là aussi, il y a un lien avec les femmes, sûrement.
Donc, oui, il y a plusieurs chapitres sur les femmes dedans.
Voilà. Merci à toutes les deux, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Si cette émission est une nouvelle année aussi, je vous la souhaite très bonne d'ailleurs. Donc si cette émission vous a intéressé, n'hésitez pas à contacter Vie Féminine Bruxelles au 02 513 69 00 si vous voulez davantage d'informations. À bientôt, bon week-end.